la République, elle s'est constituée à la fois en souvenir du fascisme, qui est évidemment le souvenir le plus immédiat, mais également peut-être pour essayer de donner une meilleure image du système parlementaire que la monarchie libérale d'avant 1922, à qui on reprochait à la fois son instabilité, un certain clientélisme, et puis le fait qu'elle avait mis du temps tout de même à intégrer les masses au sein du système politique. Alors, c'est vrai que le système politique républicain est basé sur deux chambres. Ensuite, il y a le chef de l'État, le président de la République, qui n'est pas désigné au suffrage universel. Finalement, il est désigné par les parlementaires et par les représentants des régions. Et puis, vous avez le président du Conseil, qui est donc chargé de diriger l'action quotidienne du gouvernement et qui est désigné par le chef de l'État.
On va parler justement du chef de l'État. On dit souvent en Italie qu'il a un pouvoir plus de prestige, de représentation. On a pu voir avec le président Ciampi, en fait, qu'il pouvait avoir un poids politique plus avancé, puisqu'il a lui-même demandé à ce que plusieurs lois soient revues par le Parlement. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire l'évolution justement du pouvoir dont on disposaient les présidents de la République italienne?
Disons qu'on distingue en général deux types de présidences. Ce qu'on appelle les présidences notariales, sans vouloir insulter aucun notaire, mais c'est l'idée finalement que le président est là pour gérer, pour arbitrer et pour s'impliquer finalement peu dans les affaires politiques. C'est par exemple le cas de Luigi Einaudi, premier président de la République. Et puis ensuite on distingue un autre type de présidence. Ce sont ce qu'on appelle une présidence engagée, où là, le chef de l'État n'hésite pas à intervenir directement dans les affaires publiques, en surprenant des fois d'ailleurs l'opinion. C'est le cas par exemple de Sandro Perti, le président socialiste élu en 1978. C'est lui qui a nommé le premier président du Conseil non-démocrate chrétien en 1981.
Alors actuellement, on voit beaucoup de concertations dans les différents camps politiques italiens. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le sens de toutes ces concertations pour avoir une figure qui crée le consensus? C'est quand même quelque chose de très particulier.
À vrai dire, dans la mesure où le chef de l'État est donc désigné en grande partie par les parlementaires et par les représentants des régions, on essaye de trouver, parfois avec difficulté, une figure qui pourrait faire consensus. Et effectivement, la difficulté actuellement, ce serait que cette personnalité n'apparaît pas évidente. Je serais tenté de vous dire que l'idéal, ce serait peut-être de réélire le président Ciampi, mais la difficulté, c'est qu'il a tout de même 85 ans, et que lui-même n'est que peu tenté par un nouveau septennat. Donc effectivement, l'émergence d'une figure consensuelle n'apparaît pas évidente a priori. Dans la tradition italienne, l'idée de trouver un homme un peu au-dessus des partis politiques, au-dessus des polémiques les plus fortes, est plutôt la voie la plus empruntée. Mais il faut aussi se poser la question, est-ce que nous ne sommes pas en train, depuis une petite dizaine d'années, de voir la République italienne devenir une vraie République bipartisane, c'est-à-dire où vous avez deux coalitions qui s'affrontent, qui gagnent ou qui perdent les élections selon les moments, et donc peut-être que nous sommes en train d'assister à une transition vers un système qui serait beaucoup plus frontal et où finalement le compromis qui a été souvent prôné par la démocratie chrétienne et par les partis politiques de ce qu'on appelle la Première République, peut-être que ce compromis est en voie de disparition.